pour un virus qui est déjà connu, pourquoi le Mpox est-il à nouveau déclaré une urgence?
Bonjour, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Alors effectivement, c'est un virus qui est déjà connu hein, depuis longtemps. Malheureusement, il persiste beaucoup d'inconnus autour de ce virus. Voilà. Et ça fait un moment hein, que plusieurs chercheurs essaient de travailler. C'est aussi une maladie qui a pu être considérée comme un peu négligée jusqu'en 2022, hein, le moment où cette épidémie a surgi dans le reste du monde. Donc là, effectivement, on est face à une épidémie un peu différente qui inquiète. D'une part parce que c'est le clade 1 du virus qui a une létalité plus importante. D'autre part parce que ça survient dans une zone qui n'avait pas eu de cas auparavant et qui est très connectée puisqu'on est dans une zone transfrontalière. Ça, c'est des zones toujours un peu embêtantes pour les épidémies. Et puis aussi parce qu'on est face à un nouveau mode de transmission avec une transmission interhumaine soutenue et une transmission par contact sexuel, et aussi parce qu'on atteint des nouvelles communautés, hein, la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe en République démocratique du Congo, et puis aussi des camps de réfugiés. Donc ça fait plusieurs facteurs qui sont inquiétants.
Nous allons nous intéresser précisément au cas de la RDC. Docteur Ditekemena, comment se fait aujourd'hui la prise en charge des patients au niveau de la RDC, qui est le pays le plus touché à ce jour par ce virus du Mpox?
Merci beaucoup. Le gouvernement congolais se base sur les recommandations de l'OMS qui sont claires sur la prise en charge de patients atteints de cette maladie. Et pour le moment, ce qui est très important, c'est en quelque sorte une approche qui est basée sur des mesures compréhensives ou globales. C'est vrai que l'OMS recommande de renforcer d'abord la surveillance épidémiologique pour la détection et aussi encourager en quelque sorte la protection communautaire avec toutes les mesures qui sont afférentes, les idoines pour prévenir la transmission, mais aussi en quelque sorte la mobilisation et l'extension de la prise en charge, l'équité en termes d'accès, l'accès aux soins et aussi coordination pour savoir où mettre des moyens qu'il faut. Et comme vous le savez, on insiste sur les traçages des contacts. Par exemple, quand il y a des cas qui sont concernés ou infectés, on essaie de les tracer pour trouver leurs contacts et aussi les amener. S'il y en a qui sont effectivement prouvés, qui sont infectés, on doit prendre des mesures appropriées de prise en charge. Et actuellement, ce qui est très important, c'est des mesures de prévention, mais aussi la vaccination qui est le moyen le plus important. Et aussi tout ce qui est lié au changement de comportement. En gros, tout ça, nous devons mettre dans un cadre de one health ou une santé. Parce que c'est une maladie d'abord qu'il faut savoir que c'est une maladie qui vient, qui est au même moment zoonotique, mais qui a aussi maintenant une composante de transmission homme à homme. Donc, nous suivons en fait les directives de l'OMS, que la majorité des pays se sont aussi arrivés à cela.
L'approche du One Health, c'est justement une approche sur laquelle a travaillé le docteur Besombe. Mais avant d'en parler un peu plus amplement, est-ce que vous voulez bien revenir sur les modes de transmission? Tout à l'heure, docteur Besombe disait que les modes de transmission ont évolué. Est-ce que c'est cela qui explique que les cas se répandent, que le virus se répande aussi rapidement, docteur Ditekemena?
Oui, comme vous le savez, avant, c'était d'abord, c'est une maladie zoonotique avec une transmission animale à homme. Et parce que c'est un virus qui est aussi, il y a des virus des singes, des virus des autres espèces aussi, mais qui sont très proches, comme vous le savez, des parents proches de la variole qui a été éradiquée déjà vers les années 1970 et certifiée par l'OMS en 1980. Et il faut dire qu'à tout ce moment-là, toute la presque 60% de la population maintenant a perdu tout ce qu'il y a comme protection ou prémunité contre la vaccination, parce que la vaccination était en train de se faire à ce niveau. Alors donc je disais qu'il y a à peu près, premièrement, la transmission animale vers l'homme, et qui a évolué vers maintenant la transmission interhumaine. Et dans la transmission interhumaine, nous avons les contacts avec des surfaces, avec la peau, avec les lésions de la maladie. Et il y a aussi une composante très importante qui est aussi un peu revenue avec beaucoup d'études qui ont démontré maintenant avec des évidences claires, c'est la transmission sexuelle. Mais il y a aussi la transmission de la mère à l'enfant qui est documentée et tout à fait toujours dans les contacts. Et donc, quand par exemple vous avez des tissus, des linges ou des surfaces qui avaient été contaminées par des éléments de virus, donc il y a un moyen que cela puisse faciliter aussi la contamination. Et il y a des études qui ont démontré que le virus peut rester sur ces surfaces à un endroit peut-être jusqu'à à 15 jours, hein, tout à fait prouvé de façon évidente.
Docteur Besombe, je vous laisse maintenant vous expliquer plus amplement ce que c'est que cette approche One Health.
Oui, ben merci. Effectivement, c'est important. Alors là, on est dans une situation de crise et d'urgence. Donc c'est vrai que le plus important est de se centrer sur cette transmission interhumaine et essayer de limiter la transmission, que ce soit dans les réseaux de prostitution entre vous ou dans les camps de réfugiés, hein, de mettre en œuvre le maximum pour éviter cette transmission. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que le MPOX est une maladie à l'origine zoonotique, donc qui nécessite une approche globale à la frontière entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Donc c'est ça l'approche One Health, seule santé, c'est qu'on considère une maladie dans sa complexité, dans tous les facteurs qui favorisent cette maladie. Et en l'occurrence, le MPOX, le but est de comprendre pourquoi cette maladie qu'on a découvert en 1970 en République démocratique du Congo n'a fait qu'augmenter en nombre de cas au fil des années pour arriver en 2022 à l'épidémie qu'on a connue à partir du Nigeria et arriver aujourd'hui avec l'épidémie du Kivu qui est dramatique au niveau santé publique. Donc il faut vraiment replacer cette maladie dans les contextes écologiques et les contextes socio-économiques dans lesquels elle apparaît et lutter en prévention primaire sur ces contextes-là pour éviter la survenue de maladies.
Docteur Dutekemena, parlons de la situation des vaccins. Nous apprenons ce matin que le Nigeria a reçu 10 000 doses de vaccins contre le Mpox de la part de l'Agence américaine pour le développement international. Il s'agit du tout premier lot de vaccins à atteindre le pays. Qu'est-ce qui explique que le Nigeria, qui a moins de cas que la RDC, reçoive en premier les vaccins?
Bon, je n'ai pas de raison précise, mais il y a des tractations qui sont en cours sous le support de l'OMS, avec le ministère de la Santé, l'Institut national de santé publique, qui sont en train de travailler d'arrache-pied. Le directeur de CDC Africa a été ici il y a quelques jours. Il est prouvé que il y a des tractations des efforts qui sont en train d'être fournis avec l'appui de USAID, CDC, le gouvernement américain en général, l'OMS, Gavi et ainsi que les autres, pour que le vaccin, il y a eu un retard bien sûr, mais il est prévu que d'ici début septembre, qu'il y ait quelques doses qui puissent être appropriées, qui puissent arriver en RDC. Et comme vous le savez, quand ces doses arrivent, il y a déjà un plan qui est en marche pour privilégier, parce que l'approche est de privilégier d'abord des personnes qui sont au risque, en parlant des enfants, parce que comme vous le savez, ce sont des enfants qui sont plus concernés par cette maladie, parce que nous avons ici en présence d'une transmission interhumaine, et ici qui s'est fait pratiquement dans les ménages, parce que si les enfants sont contaminés, comme je disais, il peut y avoir transmission sexuelle, bon, on s'attendrait à voir plus de personnes qui sont des enfants, ça se transmet pratiquement dans des ménages. Et nous sommes en RDC en train d'attendre presque dans une semaine qu'il y ait retour des classes. Et donc, on est en train de réfléchir sur tout ça. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation se sont réunis pour voir qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure. Mais en fait, pour le vaccin, nous attendons qu'une dose, en quelque sorte, un lot puisse arriver en début septembre.
En l'absence de vaccin pour la prévention, en RDC précisément, comment vous faites actuellement pour le traitement des patients, des personnes touchées par le virus?
Écoutez, le traitement, je peux parler d'une façon globale de la prise en charge des patients. Et comme vous le savez, le virus importe. C'est un virus comme tous les autres virus, comme COVID, mais c'est un virus qui est à base de ADN, pas comme les autres à base d'ARN. Et on n'a pas de médicaments, on n'a pas un traitement spécifique pour détruire les virus ou bien arrêter les virus. Mais il y a les vaccins qui sont très importants. Mais avant cela, il y a toutes les mesures qui sont tout à fait appropriées, en quelque sorte des mesures préventives, prendre toutes les mesures, incluant même des mesures qui avaient été mises en place pour lutter contre le COVID-19, de protection, de lavage de mains, ainsi de suite. Mais alors, il y a aussi la prise en charge symptomatique, parce que il y a des lésions. Donc, il y a par exemple des symptômes qui commencent par des fièvres, des maux de tête, céphalées, mal de gorge, ainsi de suite. Mais il y a la prise en charge des symptômes, comme toutes les autres maladies virales. Il y a la prise en charge symptomatique qui est concernée parce qu'il peut y avoir des complications sur l'infection bactérienne et tout ça. Et donc, il y a une prise en charge où on traite les symptômes. Et puis, juste à ce que s'il n'y a pas de complications, le patient peut avoir... retrouver sa santé normale. Et donc, il y a toutes ces stratégies, comme je l'ai donné au début, avec des axes stratégiques comme la surveillance, la protection communautaire, ainsi de suite, avec une prise en charge tout à fait compréhensible. Mais le vaccin est un élément très, très important. Comme vous savez, il y a à peu près ACAM 2000, mais aussi d'autres immunoglobulines qui peuvent être données pour travailler et aider les patients à retrouver leur santé.
Parlant du vaccin, je le disais un peu plus tôt, le Africa CDC demande un transfert de technologie pour la fabrication du Mpox en Afrique. Docteur Besson, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi jusqu'ici cela n'a pas été fait pour un virus qui est déjà connu?
Oui, bah juste aussi pour revenir sur le fait que le Nigeria reçoive les premières doses avant la RDC, en fait, je pense que ça montre que le Nigeria était en négociation avec les États-Unis depuis 2022, leur épidémie, depuis la première épidémie qui est partie de chez eux, et ils n'avaient pas encore reçu les vaccins. Donc ça veut dire qu'il y a un retard à la délivrance des vaccins. Donc on espère que ça va arriver beaucoup plus vite pour l'Afrique centrale et pour l'Afrique de l'Est qui sont actuellement touchés. Effectivement, moi je ne travaille pas forcément sur ces aspects vaccinaux, mais je pense qu'il y a toujours les mêmes enjeux. Vous voyez qu'il y a un seul laboratoire qui fabrique en tout cas principalement les vaccins disponibles actuellement, hein, le vaccin MVABN, Jynneos, dont vous parliez. Donc déjà ça c'est un problème, puisque ça veut dire que dans le monde il y a une seule firme qui est capable de fabriquer ce vaccin. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils arriveraient à produire les doses demandées, mais uniquement fin 2025. Donc on est dans une situation qui est limitante. Donc effectivement, on se joint avec toutes les associations pour demander qu'il y ait un transfert de technologie et une possibilité de manufacturer les vaccins depuis l'Afrique pour augmenter d'une part les stocks disponibles et avoir une autonomie pour les pays africains qui en ont besoin, et aussi pour les fournir le plus rapidement possible, puisque là on voit le délai de fournissage de vaccins est trop long.
Et comment les populations en Afrique comprennent la résurgence du Mpox? Je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Lindani Parani à Lubumbashi, à RDC, qui nous dit que c'est du business de l'OMS, du n'importe quoi, selon lui. William Djamabi de Sinfra, en Côte d'Ivoire, nous dit que c'est la théorie de remplacement de la race noire qui bat son plein. Fernand de Kinshasa, en RDC, lui dit que l'un de savoir comment y faire face, qu'il a remarqué qu'on ne nous dit pas souvent les origines des différents virus qui viennent sur le continent africain. Et ça, c'est un problème aussi. Nous savons tous que le continent africain est le plus vulnérable de tous. Voilà quelques réactions recueillies sur ce sujet sur la page Facebook de VOA Afrique. On l'évoquait au début de cette émission, la communauté scientifique fait face à une vague de désinformation qui a certainement un impact sur la gestion de l'épidémie. Quelles sont les stratégies mises en place pour y faire face? On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat. Washington Forum sur VOA Afrique.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Afrique dans votre émission Washington Forum. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous parlons de la résurgence de l'épidémie Mpox en Afrique et comment les pays africains y font face ou s'apprêtent à y faire face. Et nous avons de Paris Camille Besombe, médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales et docteur en épidémiologie, chercheur à Sciences Po. Elle nous rejoint de Paris, je l'avais dit. De Kinshasa, en RDC, le docteur John Ditekemina, expert en santé publique et directeur régional de la Fondation Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique. Et nous avons finalement docteur Kayembe Ntumba, docteur en sciences biomédicales, ou professeur et recteur de l'université de Kinshasa en RDC. Bonsoir docteur et merci de nous rejoindre.
Merci beaucoup.
Alors, avant de parler des stratégies de lutte contre la désinformation, justement, c'est de ça que nous allons parler, la désinformation. On l'a vu dans les commentaires aussi à l'entame de cette émission, beaucoup n'y croient pas, une invention de l'OMS. Quelles sont les thèses les plus sombres que vous avez collectées sur cette épidémie, docteur Kayembe?
Oui, il y a un problème évident de communication et de sensibilisation quant à cette maladie. Ce sont là les barrières d'ordre anthropologique et sociologique qui nécessitent que la prise en charge soit absolument multidisciplinaire, impliquant des leaders d'opinion de tout genre. Il faut déjà le dire que la maladie monkeypox, en effet, elle n'est pas nouvelle en République démocratique du Congo. Mais l'épidémie, mes prédécesseurs l'ont dit, est renforcé par des conditions de précarité comme le déplacement des patients, etc. Et on peut parler d'une urbanisation anarchique qui met très facilement l'humain au contact du monde animal et du monde de la forêt. C'est ainsi qu'il y a une transmission des zoonoses assez facilement parce que les deux milieux se rapprochent, justifiant la stratégie One Health dont vous avez parlé. Mais il est important d'insister sur la communication, faire savoir ce qu'il y a et les moyens de lutte qui existent pour la prévention. Le Congo sort d'une gestion assez bonne de la maladie de Covid-19. Les mesures sont à peu près les mêmes, celles qui concernent la distanciation et le fait d'éviter le contact rapproché. Ces mesures nécessitent d'être renforcées avec plus sérieusement et déjà le lavage régulier de mains avec de l'eau et du savon.
Malheureusement, la désinformation, ce n'est pas la première fois qu'il y a autant de désinformation autour d'une épidémie. On a vu le cas avec le Covid. Docteur Ditekemena, est-ce que vous avez une stratégie pour faire face à cette désinformation actuellement où vous travaillez sur un projet?
Oui, certainement. Et c'est ainsi que, notamment, la commission de prise en charge de la maladie chez nous, l'équipe multidisciplinaire, dans laquelle la communication a certainement la part belle. Le vaccin est attendu, c'est vrai, mais on lit déjà, et ça c'est la force néfaste des réseaux sociaux, on lit déjà tous les effets néfastes, etc. Il y en a qui sont même allés jusqu'à un vouloir d'exterminer une certaine race. Vous comprendrez aisément que lutter contre une opinion qui est tout à fait entraînée dans, disons-le, des hérésies de ce genre, nécessite absolument qu'on apporte la communication où il faut. C'est ainsi que les universités, avec leur faculté de médecine, les écoles d'infirmières, mais aussi la presse locale, écrite, parlée, etc., les leaders d'opinion, qui sont très importants, je vois ici les équipes, etc., peuvent propager la nouvelle. la nouvelle va dans le sens de dire que c'est une maladie qui est réellement chez nous, parce qu'on dénombre aujourd'hui plus ou moins 15 000 cas suspects de la maladie d'un chez nous au Congo, où le diagnostic moléculaire n'est pas, comment dirais-je, arrivé. Il n'y a que quelques laboratoires finalement qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'avec prudence, je parle de 15 000 cas suspects, quand bien même le tableau clinique laisse dire qu'il s'agit réellement de la maladie de monkeypox. Notamment les éruptions cutanées vésiculeuses qui en sont une caractéristique.
Docteur Didekemena, vous avez un commentaire sur la stratégie mise en place pour faire face à la désinformation?
Oui, effectivement, je crois que le professeur Kayembe a ajouté beaucoup d'éléments. Et donc, c'est la même situation même lors de l'épidémie de COVID, de la pandémie de COVID, on a vécu. Nous avons réalisé une étude et nous avons été étonnés de voir des réactions de gens. Une étude que nous avions menée dans toutes les provinces et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui s'épanchent vers ce qu'on appellerait la théorie des conspirations. Mais la réalité, c'est que la maladie existe, et comme le professeur Kayembe l'a dit, elle a été identifiée ici en RDC, et on appelle monkeypox parce que seulement ça a été isolé à partir de singes importés au Danemark en 1958, mais c'est une maladie qui existe en 1970. Le premier cas de maladie a été identifié chez un enfant de 9 mois en RDC. Et donc, cette maladie existe depuis lors. Il y a eu beaucoup d'épidémies, beaucoup de cas qui sont augmentés en RDC depuis tous ces temps. Des séquences d'épidémies jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est une maladie qui existe. Alors, aujourd'hui, il y a même une discipline qui est en train de monter, qui s'appelle l'infodémie. Donc, juste pour traiter ces cas de désinformation qui viennent, soit en quelque sorte aggravées par les médias sociaux et toutes ces choses. Et donc, des piliers reposent sur la stratégie de changement des comportements, une communication efficace pour le changement des comportements avec toutes les approches possibles, avec toutes les préceptes possibles pour aider les gens en incluant tous les détenteurs d'enjeux, des responsables, des influenceurs à tous les niveaux, pas aller avec l'approche en quelque sorte méticuleuse de contradictoire, mais aussi en amenant une conscience tout à fait appropriée. Il y a des stratégies qui sont tout à fait normales et qui peuvent prendre du temps pour étayer cela en termes de communication sur le changement des comportements.
Et pour clore cette émission, je reviens sur la question que j'ai posée à l'entame. Docteur Besoin, selon vous, en quelques mots, l'Afrique est-elle aujourd'hui prête à faire face à cette nouvelle épidémie du Mpox?
Ben déjà, je dis bravo et je félicite tous les collègues africains qui font face depuis très longtemps à ces épidémies de Mpox. Et puis récemment, dans un article dans The Conversation, qui est un journal intéressant, un article d'un collègue nigérien qui disait que l'Afrique, malgré des capacités limitées en tests, en diagnostic, en vaccins, a réussi pourtant à déjà prévenir et à contenir plusieurs épidémies. Hein. Donc déjà, bravo à tout ce qui est fait par les équipes sur place. Mais effectivement, et comme l'OMS l'a demandé, comme l'Africa Citizen l'a demandé, les pays ont besoin d'un renfort des capacités, à la fois des ressources humaines, d'avoir des personnes formées, à la fois d'avoir des tests diagnostiques de terrain, d'avoir des capacités de séquençage et puis d'appui au vaccin. Donc il y a vraiment besoin.
Merci beaucoup, docteur Beson. Merci à vous, docteur Ditekemene, et également à vous, docteur Kayembe. Fin de cette émission Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous suivez à travers nos télépartenaires sur le continent. Le rendez-vous fait tous les jeudis 19h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche. Bonne soirée à toutes et à tous.